Fini les deux drapeaux sur les permis de conduire après des mois de polémiques et de batailles juridiques. Alcide Ponga, le président du gouvernement, a pris la décision unilatérale de retirer les deux drapeaux. Le gouvernement met son grain de sel dans les nakamals. Il a validé un avant-projet de loi du pays pour réglementer les bars à cava. Emmanuel Macron apporte un soutien total face à un gouvernement qui se dit combatif. Le chef de l'État appelle à l'esprit de responsabilité et défend un vote de lucidité. Situation très préoccupante et même critique dans certains secteurs. Le président du MEDEF ne mâche pas ses mots aux rencontres des entrepreneurs de France. Les sports avec les joueurs de la sélection calédonienne de football des moins de 16 ans qualifiés pour le mondial. Qualification acquise grâce à leur victoire lors de la séance des tirs au but sur Fidji en demi-finale du tournoi OFC. La météo également, au lever du jour, quelques plaques de nuages bas à s'attarde sur le sud-ouest et les Loyautés, mais rapidement le ciel se dégage dans la matinée avec du soleil pour l'ensemble du territoire.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, il n'y a plus de drapeau sur le permis de conduire délivré en Nouvelle-Calédonie. C'est la décision unilatérale prise par le président du gouvernement. Plus d'un an après la décision du tribunal administratif ordonnant le retrait du drapeau kanak. Aujourd'hui, la note est salée, 26 millions de francs que la Nouvelle-Calédonie doit à l'État, Lionel Sabot.
Oui, c'est la fin d'une longue bataille juridique. En 2023, le drapeau kanak était ajouté à côté du drapeau tricolore sur les permis de conduire à la suite d'un arrêté pris par le gouvernement Louis Mapo. Une décision très vite contestée, notamment par Génération NC qui, en janvier 2024, avait formé un recours devant le tribunal administratif. Le jugement avait été rendu 4 mois plus tard. Le drapeau indépendantiste n'étant pas un signe identitaire de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement ne pouvait pas le faire figurer sur un document d'identité. C'est en juillet 2024 que la sanction est tombée avec une amende de 100 000 francs par jour pour la collectivité de la Nouvelle-Calédonie tant que l'emblème n'était pas retiré. Une somme qui a augmenté progressivement pour atteindre 600 000 francs par jour. 13 mois plus tard, la facture est donc lourde. Elle atteint 26 millions de francs, vous le disiez. La situation semblait insoluble en raison du refus de Gilbert Thuyénon, le membre du gouvernement en charge du secteur. De plus, le gouvernement n'était pas assuré d'avoir la majorité sur le sujet, notamment en raison de la position des membres indépendantistes et de l'éveil océanien. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, a donc décidé de cesser les frais. Il a pris unilatéralement la décision de supprimer les deux drapeaux sur le permis de conduire et il a envoyé un courrier en ce sens à la DI3T. Les explications de Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement.
Il fallait laisser un petit peu de temps pour trouver une solution et finalement on n'a pas trouvé de solution, on n'a pas trouvé de majorité, on avait un membre du gouvernement qui ne voulait pas apposer son contreseing. Et donc, pour respecter la loi, maintenant, le président du gouvernement a pris sa responsabilité, puisque sa responsabilité pouvait aussi être engagée, mais il avait choisi le fait de le faire dans le dialogue. Aujourd'hui, chacun a pris sa responsabilité et nous avons un nouveau permis.
L'amende, elle est très élevée. Est-ce qu'il y a des solutions envisagées pour peut-être éviter de payer la totalité?
Oui, on est aujourd'hui à environ 26 millions d'amendes qui ont été facturées à la Nouvelle-Calédonie, mais nous avons des discussions avec l'État pour ne pas payer cette amende. Enfin, aujourd'hui, verser de l'argent à l'État, c'est pour qu'il nous le reverse derrière. Chacun pense que ça sera une bonne solution si cette amende pouvait être annulée.
Les propos recueillis par Charlotte Coulson, la décision d'Alcide Ponga a été prise sans l'accord de Gilbert Thuyénon, qui pourrait donc former un recours contre cette suppression du drapeau. En attendant, les nouveaux permis ne porteront donc plus aucun drapeau, mais les quelques 26 000 permis de conduire sur lesquels figurent les deux drapeaux sont toujours valides.
Dans un communiqué, Génération NC se félicite de cette victoire de l'État de droit. Le parti qui avait été à l'origine du recours indique qu'au total, l'entêtement de Gilbert Thuyénon, membre indépendantiste en charge du secteur, aura coûté plus de 30 millions de francs aux Calédoniens. Il estime que c'est intolérable dans la situation économique catastrophique que connaît la Nouvelle-Calédonie. Génération NC qui remercie le président du gouvernement Alcide Ponga d'avoir trouvé le moyen de faire appliquer la loi malgré l'obstination du membre en charge du secteur du transport. Autre point à l'ordre du jour de la séance du gouvernement, la mise en place d'une licence pour les gérants de Nakamal. C'est la nouvelle réglementation qui pourrait être mise en place dans les mois à venir. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite en effet clarifier le cadre juridique qui entoure la vente de cava sur le territoire lyonnais.
Oui, les Nakamal ont actuellement le même statut qu'un salon de thé, ce qui forcément pose quelques soucis en termes d'hygiène, de réglementation économique, mais aussi parfois de sécurité publique. Ces dernières semaines, certains établissements ont même fait parler d'eux, comme le City à Nouméa, fermé, vous le savez, administrativement, pendant 2 mois, après un nombre répété d'agressions, rixes ou vols avec violence qui ont été recensés près du lieu. lieu. Le gouvernement souhaite donc mieux encadrer la vente, la consommation de cava. Un avant-projet de loi du pays a été déposé, adopté hier au gouvernement. S'il est ensuite adopté par le Congrès, les gérants de Nacamal devront suivre les mêmes démarches que pour la vente d'alcool, explique Christopher Gigès, le porte-parole du gouvernement.
On a eu une volonté à la fois des provinces et des communes d'avoir une meilleure réglementation et d'avoir une vraie réglementation qui nous permet d'agir à la fois sur le côté sécuritaire, sur le côté économique et sur le côté sanitaire. Donc aujourd'hui, cette loi de pays a été adoptée qui nous permet d'avoir le fait que les gérants des Nacamal aient une licence comme les gérants qui tiennent des établissements d'alcool, qu'on puisse mettre en place un numerus clausus et qu'on puisse aussi mettre en place une interdiction de Nacamal près d'établissements scolaires ou d'établissements de santé.
L'avant-projet de loi du pays a été rédigé avec le groupe de travail des présidents d'exécutifs de la Nouvelle-Calédonie, car le gouvernement affiche sa volonté de déléguer la gestion des Nacamal aux provinces et aux communes. L'objectif est de protéger la santé et la sécurité des Calédoniens, explique Christopher Gigès.
On l'a vu ces derniers jours, il y a eu dans certains Nacamal de la vente de drogue, de la prostitution, des crimes qui ont été faits dans certaines zones. Tous les Nacamal ne sont pas comme ça, mais beaucoup de Nacamal aujourd'hui étaient devenus un repère de délinquants et donc il fallait réglementer, il fallait nous donner la possibilité de réglementer. Et quand on a une réglementation qui dit qu'on est un salon de thé, je pense qu'il était urgent de le faire.
Si le projet de loi est adopté au Congrès, les gérants auront un délai de 6 mois pour régulariser leur situation, fournir leur justificatif et obtenir leur licence, puis 6 mois supplémentaires pour effectuer leur mise aux normes. Si ce n'est pas le cas, ils seront contraints de fermer.
Comment préserver un marché libre tout en favorisant des échanges régionaux ? C'est toute la problématique à laquelle sont confrontés les petits territoires comme la Nouvelle-Calédonie qui tentent de développer leur économie insulaire. Une question à laquelle vont également essayer de répondre une trentaine de spécialistes pendant 3 jours et du moins tenter d'y apporter quelques axes de réflexion. Le colloque international intitulé « Concurrence et intégration économique régionale » a débuté hier à l'université. Il est organisé par l'Autorité de la concurrence et l'UNC. C'est sa présidente Catherine Riss qui a ouvert les échanges hier après-midi.
Le but de ce colloque est de confronter différents points de vue, différentes expertises sur la question de la concurrence et de l'intégration régionale. Parce que souvent, ce sont des intentions qui peuvent être contradictoires dans les effets qu'elles produisent. Il y a une nécessité d'intégration régionale et de s'alimenter et de se rapprocher de nos voisins de la région. Et c'est parfois difficile à mettre en œuvre avec le respect de la concurrence. Donc c'est cet équilibre qu'on peut trouver entre à la fois produire localement, pouvoir exporter dans la région, échanger avec nos partenaires régionaux et en même temps garantir la concurrence qui a quand même des vertus en termes de pouvoir d'achat pour le consommateur.
Au programme de ces 3 journées, des tables rondes réunissant économistes et membres d'organisations internationales comme l'OCDE, l'ONU ou l'OMC, mais aussi des représentants des autorités de concurrence d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de la Réunion ou même des Caraïbes. À l'issue de ces 3 jours de discussion, un document de recommandation pourra être formulé et transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, comme l'explique Stéphane Reterer, le président de l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement est notre partenaire, donc il suit le colloque. Les entreprises, l'Autorité de la concurrence, les universitaires, les économistes vont faire des propositions, il va en sortir quelque chose. Nous, on va produire un document de synthèse de travaux pour le gouvernement. Donc ça sera ensuite au gouvernement de voir ce qui peut être. Ça peut être une modification de réglementation pour simplifier une norme, par exemple, ou des comportements qui seront mis en œuvre par les entreprises pour pouvoir améliorer l'approvisionnement ou l'exportation, ou faire des demandes de simplification de normes. Enfin, ça peut être beaucoup de choses.
Après une première table ronde hier, le colloque se poursuit aujourd'hui à l'UNC, puis vendredi à la CCI. Notez que nous reviendrons sur ce rendez-vous avec Stéphane Reterer, le président de l'Autorité de la concurrence, qui sera notre invité tout à l'heure à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la décision unilatérale du président du gouvernement de retirer les 2 drapeaux des permis de conduire calédoniens ? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, à présent, 61% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'engagement de la confiance par le Premier ministre qui pourrait provoquer son départ de Matignon peut avoir des conséquences sur la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Ils sont 39% à penser que cela n'aura pas de conséquences. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Un rendez-vous sur notre antenne, un autre. Les soldes d'hiver débutent samedi prochain, un moment toujours important pour les commerçants, Nous nous pencherons sur le secteur du commerce à midi dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Nous recevrons le président du syndicat des commerçants, Ronan Delay, Charles Germain, élu à la CCI, et Didier Vernel, le vice-président du syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie. Rendez-vous donc ce midi sur RRB pour les jeudis de l'économie. En attendant, il est 6h passé de 41 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Futur bachelier ou déjà titulaire du bac, tu cherches un diplôme Bac plus 3 ? Découvre le bachelor de l'école de gestion et de commerce de Nouvelle-Calédonie. Commerce, gestion, marketing, pourquoi choisir ? 3 ans pour te former à une multitude de métiers, c'est à l'EGC. Inscris-toi dès maintenant sur Parcoursup NC jusqu'au 1er octobre. Titulaire d'un Bac plus 2, rejoins-nous directement en deuxième année. Plus d'infos sur www.egc.cci.nc ou au 24 31 40. EGC Business School de Nouvelle-Calédonie, inspirez demain.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en Nouvelle-Calédonie, actualité politique avec ce nouveau groupe au sein du conseil municipal de Dimbéa, le groupe Les Loyalistes, le Rassemblement Dimbéa. Il s'agit d'une déclinaison locale de l'union entre les loyalistes qui réunit Génération NC de Nicolas Metzdorf, le mouvement populaire calédonien de Gilles Brial et les républicains calédoniens de Sonia Baquès ainsi que le Rassemblement d'Alcide Ponga, Lionel Sabot.
Dans un communiqué, les élus municipaux de Dimbéa appartenant à ces différents partis indiquent qu'ils sont engagés aux côtés de leurs responsables pour soutenir, défendre et expliquer l'accord de Bougival à la veille d'échéances politiques majeures comme le référendum, les municipales et les provinciales de 2026. Il est donc décidé de forger cette union politique au niveau communal en réunissant les groupes Génération Dimbéa et Dimbéa Intègre, ainsi que les membres de la majorité municipale ou d'anciens de la majorité siégeant en non-inscrits et qui ont été déçus par les prises de position récentes du maire, notamment au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce nouveau groupe compte 9 élus, dont Pierre Mestre, le 9e adjoint au maire, et c'est Cynthia Jean, chef de file de l'opposition municipale depuis 2020, qui en assurera la présidence. Le groupe Les Loyalistes, le Rassemblement Dimbéa, annonce qu'il lancera des propositions concrètes dès le conseil municipal qui se réunit ce soir.
C'est le statu quo dans l'imbroglio à la présidence de la province des Îles. Mais l'ex-président Jacques Lallier ne désarme pas et il a bien l'intention de faire valoir ses droits. Dans l'attente du résultat des recours qu'il a intentés, et notamment de la réponse sur la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il a déposée, il maintient la pression sur son successeur et il envisage même de convoquer prochainement une assemblée de province.
Aujourd'hui, on a une province qui ne s'est pas réunie en assemblée depuis 4 mois et demi. Quand j'étais président, la subdivision et l'État, ils me rappelaient toujours qu'il faut faire les réunions tous les 2 mois, selon la loi. Donc voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a vraiment des choses à clarifier et permettre à ce que la province des îles puisse être gérée. En tout cas, la semaine prochaine, je vais certainement avoir des réunions avec la majorité des élus pour avoir en même temps la solution juridique, mais en même temps la solution politique. Je ne peux pas compter sur l'Union calédonienne puisque j'ai l'impression que le fait que l'État n'a pas bougé, c'est aussi un peu pour nous affaiblir, de nous diviser pendant la période de négociation. Mais en tout cas, moi, j'utilise et le juridique auprès du Conseil d'État pour confirmer, parce que j'avais de toute façon attaqué l'élection du président. Donc je veux simplement que le Conseil d'État y attache cette démarche par rapport à sa décision.
Jacques Lallier qui accuse l'État de ne pas faire exécuter les décisions de justice mais qui dans le même temps reproche à l'Union calédonienne de ne pas le soutenir. En bref, l'homme qui a tiré lundi matin sur la brigade de gendarmerie de Marais a été interpellé hier matin et placé en garde à vue. Il avait ouvert le feu visant une fenêtre de la caserne alors que les gendarmes s'apprêtaient à partir en intervention après avoir reçu un appel d'une administrée. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés.
Radio Rythme Bleu, 6h45.
L'actualité dans la région à présent avec la préparation du 54e sommet du Forum des îles du Pacifique. Il aura lieu courant septembre à Honiara, la capitale des îles Salomon. Et l'Australie et la Chine rivalisent pour apporter leur soutien logistique pour ce rendez-vous. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Afin d'aider les îles Salomon à mieux organiser ce sommet, l'Australie vient de leur livrer 31 des 61 véhicules de police qu'elle fournira à Honiara en prévision de l'événement. Le premier ministre de l'archipel, Jeremiah Manele, a précisé que les véhicules, des Toyota à double cabine, ont été choisis en collaboration avec les forces de l'ordre locales, je cite, « afin de répondre à des besoins opérationnels spécifiques de façon à garantir un environnement sûr et sécurisé pour le sommet du forum ». Pour ne pas être en reste, la Chine vient quant à elle d'offrir au gouvernement salomonais 27 véhicules GWM pour Great Wall Motors à 4 roues motrices et dotés de cabines à 7 places. L'ambassadeur de Chine à Honiara, Chai Weiming, a précisé que ce don s'inscrit dans le cadre du soutien de Pékin à l'organisation du sommet. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 6h passé de 47 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité nationale et évidemment la réaction du Premier ministre François Bayrou qui était l'invité du 20h de TF1, c'est-à-dire à 5h ce matin pour nous, pour revenir sur ce fameux vote de confiance qui est prévu le 8 septembre.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
À partir du 15 août, ce sont les Gémeaux Days. Dès 3 articles achetés avec une étiquette rouge Gémeaux Days, vous avez 30% de remise. Pour 4 articles, 40%. Et pour 5 articles et plus, moins 50% sur l'ensemble de ces articles. Il y a de quoi se faire plaisir. L'offre est valable dans les deux magasins Gémeaux Vêtements Ducos et Alma et dans tous les rayons. Et ça, c'est jusqu'au 29 août. À bientôt chez Gémeaux pour les Gémeaux Days.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
À toutes les Calédoniennes, la Nouméa NoPT célèbre sa 20e édition. Pour cette occasion très spéciale, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 octobre à l'Hippodrome Henri Millard pour une matinée solidaire dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Stands thématiques, marches et surprises vous attendent pour ce grand moment de partage 100% féminin. Inscrivez-vous vite sur www.inlife.nc. Plus d'infos sur la page Facebook La Nouméa NoPT.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, samedi 30 août, café rencontre de 9h30 à 12h. Expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info matin, l'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
L'actualité politique à la une avec François Bayrou, qui était l'invité du 20h de TF1. Il s'est exprimé sur sa décision de soumettre son gouvernement à un vote de confiance le 8 septembre prochain. Le Premier ministre qui recevra les chefs de parti lundi prochain à Matignon pour discuter de ce vote, puisque s'il n'obtient pas la majorité, alors son gouvernement tombera.
Aujourd'hui, a priori, on ne peut pas obtenir la confiance, mais on sait bien qu'il n'y a pas de majorité depuis longtemps. Depuis les élections. Ma conviction, c'est qu'il est impossible de poursuivre ou de porter la politique de redressement du pays s'il n'y a pas un minimum d'accord sur l'importance de ce choix. Parce que on ne peut pas passer en force. Et d'ailleurs, je ne veux pas passer en force. Le gouvernement, dans ce moment, il n'est pas contre les Français ou pour contraindre les Français. Le gouvernement, il est le défenseur des Français.
Et dans ce contexte, Emmanuel Macron apporte un soutien total à son Premier ministre, le président de la République, qui s'est exprimé dans une interview au JD News. Il assume aujourd'hui qu'après avoir dépensé beaucoup pour protéger, il faut, dit-il, économiser et travailler pour rembourser. Hier soir à l'Élysée, le chef de l'État a présidé le premier conseil des ministres de la rentrée et il était évidemment beaucoup question de ce 8 septembre prochain, Maïlène Trémollet.
Oui, face à un gouvernement qui se dit, je cite, combatif, le chef de l'État appelle à l'esprit de responsabilité et défend un vote de lucidité. Écoutez Sophie Prima, porte-parole du gouvernement.
Le président de la République a évoqué la situation politique, apportant son total soutien sur la démarche et qu'il était en parfaite osmose sur les questions de produire plus et de dépenser mieux.
Sur la situation financière du pays, Emmanuel Macron appelle à ne pas tomber ni dans le déni ni dans le catastrophisme. Manière de faire écho au Premier ministre qui distingue deux camps, celui de la responsabilité d'une part et celui du chaos qui serait représenté par les oppositions. De son côté, le président veut donc se montrer au travail. Dans son entourage, on affirme que son pouvoir n'est pas affaibli par ce vote de confiance et que l'heure est aux grands thèmes internationaux comme la guerre en Ukraine par exemple. Toujours est-il qu'une partie de l'agenda gouvernemental reste gelé et pourrait avoir de lourdes conséquences à terme, selon un conseiller.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Une situation politique tendue dans un contexte économique difficile. Les universités d'été du MEDEF se sont ouvertes la nuit dernière. Les entrepreneurs très inquiets face à ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. Très agacés aussi par la politique menée par le gouvernement. Patrick Martin, le président du MEDEF, a pris la parole et n'a pas mâché ses mots, notamment concernant l'impôt sur la fortune. Aurélien Fleureau.
Oui, hein, Patrick Martin incisif quand il s'est agi d'évoquer les possibles contributions à venir des chefs d'entreprise qui se retrouvent englués dans les incertitudes liées à ce vote de confiance du 8 septembre prochain. Taxer les hauts revenus n'est jamais une bonne idée dans un pays en recherche de productivité, a rappelé le président du MEDEF.
Je veux être clair devant vous, quelle qu'en soit la forme, un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie. Et nous nous y opposerons. On ne peut pas appeler à plus de production le matin et taxer encore plus les actionnaires l'après-midi.
Et Patrick Martin est bien sûr revenu sur la nouvelle période de flou qui se profile. Les décideurs politiques doivent dépasser leur rivalité partisane. Cela n'en prend pas le chemin. J'en suis consterné, a-t-il commenté. C'est un constat très partagé ici parmi les patrons et les patronnes croisées autour du cours Philippe Châtrier à Roland-Garros.
Aurélien Fleureau à la REF du MEDEF à Roland-Garros pour Europe 1. En bref, du nouveau dans l'enquête sur la profanation de l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. Deux suspects viennent d'être interpellés et placés en garde à vue. Il s'agit de deux jumeaux de nationalité tunisienne et sans domicile fixe. Ils sont soupçonnés d'avoir découpé l'olivier à la tronçonneuse dans la nuit du 13 au 14 août dernier. Emmanuel Macron avait alors dénoncé, je cite, un acte de haine. Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois, avait encore écrit sur X le chef de l'État. En bref, une nouvelle tuerie aux États-Unis. Elle a eu lieu dans une église attenante à une école de Minneapolis. Le tireur a ouvert le feu, tuant ainsi deux enfants, en blessant au moins 14 autres parmi ses écoliers rassemblés pour une messe. L'homme qui portait trois armes à feu s'est suicidé ensuite. Il est 6h passé de 53 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Dimanche 31 août, c'est le 42e marathon international de Nouvelle-Calédonie avec le concours et le soutien de la ville de Nouméa. Dès 7h, départ du marathon et semi-marathon mobile. 8h, le 10 km Tokuyama. 10h30, course pour les enfants de 7 à 13 ans. Inscription en ligne jusqu'au dimanche 24 août ou à l'hippodrome du mardi 26 au vendredi 29 de 9h à 18h. Dossier d'inscription chez Running Conseil Nouméa. Attention, Anse-Vata fermé de 7h à 8h. Circulation perturbée sur les baies et promenade Pierre-Vernier de 6h à 12h le 31 août au matin. Venez nombreux.
SRB, le spécialiste de l'aluminium pour vos fenêtres, baies vitrées et garde-corps en verre. Vous voulez des baies vitrées de grande taille qui glissent facilement et qui durent dans le temps? Choisissez la robustesse de l'aluminium SRB pour un habitat design et sécurisé. SRB Aluminium, 25 ans d'expertise au service de votre tranquillité. Demande de devis au 28 12 50 ou à contact@srb.nc.
Information travaux sur la VE2. La province Sud vous informe de la mise en place d'un chantier sur la VE2 entre l'échangeur de la Zizazico et celui de Païta Centre, dit des fraisiers. La durée des travaux sera de 6 semaines à partir du 4 septembre. La circulation se réduira à deux fois une voie et une déviation sera mise en place par la route de la Ziza. Attention, les bretelles menant à la ZIPAD en sortie du rond-point de Païta Centre seront également fermées pendant toute la durée du chantier. Cette opération est inscrite au programme pluriannuel d'investissement. Elle est entièrement financée par la collectivité. Soyez prudents pour vous et pour les personnels de chantier. Respectez les panneaux de signalisation. La province Sud vous prie de bien vouloir l'excuser de la gêne occasionnée par ces travaux, indispensables à la sécurité de tous.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on parle de football puisque Didier Deschamps a communiqué cette nuit pour nous la liste des 23 bleus convoqués pour disputer les matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026 face à l'Ukraine et à l'Islande les 5 et 9 septembre prochains. Lionel Sabot.
Ah oui, une liste dans laquelle le monégasque Magnès Akliouche figure pour la première fois tandis que Benjamin Pavard, lui, est absent, présent également dans cette liste. Adrien Rabiot, dont l'avenir à l'OM, vous le savez, demeure bien flou. Du côté des attaquants, Deschamps a joué la carte de la continuité en sélection sélectionnant Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Hollis, Marcus Thuram et Ryan Cherki, le monégasque Magnès Akliouche, donc 23 ans, et le petit nouveau de la bande. Il fait sa rentrée dans une liste dans laquelle ne figurent pas Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery ni Hugo Ekitike, malgré un bon début de saison avec son nouveau club Liverpool. Enfin, comme attendu, Upamecano, Saliba et Koundé font leur grand retour dans la liste, convaincant lors du dernier rassemblement. Malo Gusto est également convoqué par Deschamps, au contraire, donc on le disait, de Benjamin Pavard. L'équipe de France rencontrera l'Ukraine le 5 septembre, ce sera en Pologne, puis l'Islande le 9 septembre prochain, et là ce sera au Parc des Princes.
On passe au cyclisme avec la suite de la Vuelta, puisqu'on courait cette nuit pour nous la 5e étape du Tour d'Espagne, en Espagne, comme son nom l'indique.
Exactement, oui, mais que les étapes s'étaient passées en Italie et en France les dernières fois, c'est la première étape vraiment en Espagne. Et c'est l'équipe Emirates qui a remporté le contre-la-montre par équipe de cette 5e étape du Tour d'Espagne. C'est à Figueras, devant la formation Visma du Danois, Jonas Vingegaard, qui a repris le maillot rouge de leader du Français David Godu. Bah oui, on vous disait hier que ça ne devait pas durer. Emmené par l'Espagnol Juan Ayuso, l'équipe Emirati a réalisé le meilleur temps sur le parcours de 24 km 100 en 25 minutes et 26 secondes, avec seulement 8 petites secondes d'avance sur la Visma, ce qui permet à Vingegaard, favori de l'épreuve, de reprendre la tête du classement général.
Du football côté calédonien maintenant, puisque les joueurs de la sélection calédonienne des moins de 16 ans sont qualifiés pour le mondial qui aura lieu au Qatar en 2026.
Alors il leur suffisait pour cela de remporter leur demi-finale du tournoi OFC face à Fidji. Il y a eu du suspense puisqu'il a fallu aller jusqu'à la séance des tirs au but que les Calédoniens ont remporté 5-4. Avec ce succès, nos représentants sont donc assurés de jouer le mondial des moins de 17 ans au Qatar en 2026. La réaction de Francis Watron, c'est le coach de la sélection calédonienne des moins de 16 ans.
Après cette victoire, que les garçons ont été chargés jusqu'au bout, jusqu'à leur trip, jusqu'en tir au but. La pression, elle était tellement intense que au coup de sifflet, sur le dernier arrêt du gardien, toute la pression est descendue. La clé aujourd'hui pour cette performance, c'était la solidarité entre les joueurs, la cohésion de groupe et la détermination.
Et en finale du tournoi OFC, les jeunes Calédoniens retrouveront la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée hier soir 2-0 sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Calédoniens avaient affronté déjà les Néo-Zélandais pendant la phase de poule. Le match s'était terminé sur un 0-0.
Et enfin, une soirée auprès des fans hier pour Maxime Grousset, actuellement en vacances sur le territoire.
Oui, les Eaux du Mont d'Or, une marque dont le nageur et l'ambassadeur organisaient hier un événement à Londroit, établissement de la baie des Citrons, en l'honneur de celui qui vient de décrocher 2 titres de champion du monde en grand bassin à Singapour. Des invités qui ont pu profiter d'instants privilégiés avec le double champion du monde.
Bonsoir et merci d'être venu. Merci à l'Eau du Mont d'Or d'organiser ça pour nous.
Moi, je suis Sandrine De Cara, la directrice marketing de la GVNC et des Eaux du Mont d'Or. C'était très important parce que nous sponsorisons Maxime depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est l'ambassadeur de la marque Eaux du Mont d'Or depuis ces années. C'est la première fois qu'il revient sur le territoire depuis qu'on a démarré la collaboration avec lui. Nous sommes très contents et très honorés d'avoir sa présence. En fait, sur les campagnes, ce qu'on voudrait, c'est que Maxime il soit source d'inspiration pour les jeunes calédoniens. Et du coup, la rencontre avec ses fans, c'était un moment qu'on ne voulait pas louper. La collaboration entre Maxime et l'Eau du Mont d'Or était évidente pour nous parce que Maxime et l'Eau du Mont d'Or partagent les mêmes valeurs. L'Eau du Mont d'Or encourage une vie saine et active. Donc c'était évident pour nous que Maxime représente notre marque.
Et les fans ont pu profiter de cette soirée aux côtés de Maxime Grousset dans une ambiance conviviale. On rappelle qu'il a remporté cette année aux Mondiaux de Singapour les titres sur 50 et 100 mètres papillon. Le Calédonien a également gagné l'argent sur le relais masculin 4x100 mètres 4 nages et le bronze sur le relais mixte 4x100 mètres nage libre.
Et est-ce qu'il y aura de l'eau aujourd'hui? Eh bien, réponse dans la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Rien que de l'eau, de là-haut, mon cher Thierry.
Oui, ça devrait être bien au bord de l'eau pour ce matin. Au lever du jour, les plaques de nuages qui s'attardaient sur le sud-ouest et les loyautés. Mais rapidement, le ciel se dégage en matinée. Et bien, la matinée sera bien ensoleillée dans l'ensemble. Le vent est faible, de direction variable pour ce matin. Cet après-midi, sur la pointe nord, les passages nuageux se feront plus présents et pourront laisser échapper quelques gouttes. Ailleurs, le soleil sera d'abord très présent avant d'être contrarié en cours d'après-midi par des nuages formés sur la chaîne qui s'étaleront vers les côtes et sur la façade ouest. Un vent de secteur ouest s'établira entre 5 et 10 nœuds sur la côte est et les îles. Elles restent déventées. Les températures, elles, sont comprises entre 24 et 27 degrés en général.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Elisabeth Noir. Et ensuite, vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46.
Toute l'info en trois lettres, RRB.